Et voilà, nous sommes, il est 14h et nous sommes à 1h de l'ouverture du festival Esperanza. Ça commence à monter là. Et le soleil nous a rejoint aujourd'hui, enfin. Et aujourd'hui, il sera question de chagrin, de voyage et de machinois, puisque nous avons Olivier Mélis au studio.
Bonjour. Bonjour.
Olivier. aujourd'hui, l'émission sera accompagnée par Kiki.
Bien le bonjour à tous.
Par Ludo.
Hello, hello.
Et par... qui vient de partir.
Il va revenir,
par François. François Phil qui reviendra.
Et Sylvain est à la technique avec nous.
Voilà, et Sylvain est à la technique avec nous.
Et Dimitri à la photo.
Voilà.
On est gâtés.
Du coup, nous retrouverons la nuit Tous les chats sont gris aujourd'hui à 17h40 côté jardin. Et dimanche, toujours côté jardin à 17h. Et on peut retrouver aussi Olivier Mélis dans un duo avec...
Violaine Bishop.
Voilà, qui s'appelle On Off et qui passera le samedi à 17h.
C'est bien ça.
Voilà.
Exact.
Mais avant de continuer, du coup, on va écouter, c'est un autre type d'art, mais très joli, un petit slam volé à notre chère amie Christiane de Liège.
Le jardin des autochtones.
Ne pas être sinistré de l'existence, des accordés rebelles, réfractaires, insoumis, de la désobéissance réfractaire entre grands penseurs et grands partis, des grandes confiscations entre gendarmes noirs, casqués, flashbolés, et des frontes et des pierres, sa majesté société, foulant aux pieds les petits du désordre. Dénaturisé, ridiculisé, combattu, la petite mère Gaïa. Notre petite mère Gaïa. Âge d'or, beauté, franchise, justice, frère. Et le lien à Gaïa, Pachamama, terre. Morte la bête, mort le venin. Que des lois exterminent, vivantes ou mortes à craindre. Sous l'œil de la nature, levée en silence, parmi les fous de terre. Peut-être faudrait-il un état civil à la terre. Les marais à la mer, les terriens à la mer, le climat au ciel, les galaxies remuant tout ça, et la musique des sphères n'en fera plus Nosferatu. Vers d'autres lieux réfractaires, en ces lieux, espérance à ciel, étoile, et le vent des marées surinant. Existante du Cap-Vert en Guinée, volcan, Côte-Bretonne, à l'oméga du bikini, effusée comme fraise écrasée, fière comme bûcheron, la sarabande du son se construit. T'as vu les colosses? Et elle donc. Ouh!
Et voilà, donc c'était Christiane, accompagnée dans le fond par les pans du festival qui se promène dans l'abbaye. Enfin, vous pouvez retrouver tout le temps. Alors, en fait, nous, on a une question à la radio, comme tu as pu le comprendre. C'est le machinois, c'est quoi et ça vient d'où?
Alors, le machinois, c'est une discipline qui vient d'Asie à la base. Alors, qu'est-ce que c'est un mât? C'est un tube de 6 mètres de haut, revêtu d'une gaine caoutchouc dans la plupart des cas. Et sur lequel on fait des acrobaties, on monte, on descend, on fait des chutes contrôlées. Il y a un tas de choses possibles sur le mât. Ça, les hauteurs varient de 3 à 9 mètres et on peut vraiment inventer un tas de choses autour du mât chinois.
J'ai entendu dire que c'était une discipline qui était apparentée aux arts martiaux.
Je pense pas.
Non, c'est une légende.
Alors je pense que c'est une légende et on a contrôlé avant sur internet et on n'a pas trouvé de traces d'arts martiaux, non.
Ce qui veut dire que Seb t'a transmis notre question par avance.
Non, j'ai eu un petit filon avant, mais on a vérifié parce que ça m'a posé une colle. Je me suis dit, ah zut, ça je connais pas, il faudrait quand même que je vérifie et vraiment rien trouvé au niveau des arts martiaux.
D'accord, donc te voilà maintenant informé.
Voilà, exactement, on en apprend tous les jours.
Merci pour le coup.
Ouais, donc plaisir. C'est vraiment une discipline circassienne.
quoi.
Oui, je pense. Et en Asie, voilà, je pense que les. Je pense que c'est différent en Asie qu'en Europe, parce qu'en Europe, on se l'est approprié. Il y a vraiment toute une démarche contemporaine autour de ça. Et puis, voilà, c'est un outil aux mille possibilités. Donc, il n'y a pas un style. Tout est vraiment possible. En Inde, il y a aussi, je pense qu'ils font ça sur des bambous. Mmh. Et il y a un porteur qui porte le bambou avec des personnes qui montent dessus. Donc, voilà, ça, c'est pas un mât chinois. Ça porte encore un autre nom. Mais pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités autour d'un tube.
OK. Et alors, donc ça s'appelle La nuit, tous les chats sont gris.
Oui.
Bon, alors je ne sais pas, question peut-être un peu bête, mais tu passes tous les soirs après 17h. Est-ce qu'il y a quelque chose avec le crépuscule avec,
Ben, en fait, par rapport au projet, donc, j'ai construit une structure sur laquelle repose le mât chinois avec un éclairage. Et en fait, j'aime l'ambiance de fin de journée quand le soleil se couche. Il y a une lumière que je trouve généralement assez chouette. Et j'aime ce moment entre le jour et la nuit, et ce moment aussi qu'il faut les chats, comme j'ai dit, sortent d'une journée paresseuse pour aller chasser la nuit. Et j'avais vraiment envie de jouer dans cette ambiance-là. Maintenant, ici au festival, là, ça n'a pas pu se mettre comme ça, et c'est pas grave, parce que je pense que c'est un spectacle qui peut se jouer de nuit comme de jour. Maintenant, mon heure idéale est de fête le crépuscule.
Très bien, d'où l'heure de passage.
Voilà, c'est ça.
Ok.
Un peu avant.
D'accord, et tu peux nous parler un peu de on-off ?
Tout à fait. Alors On Off, c'est un duo qui est né l'été dernier avec la rencontre avec Violaine Bishop, la compagnie Lady Cocktail. On ne se connaissait pas avant, mais voilà, moi je me suis beaucoup entraîné tout seul au mât chinois. Et puis à force, j'ai eu envie de rencontrer plus de gens et de bosser avec des gens autour du mât chinois. J'ai rencontré Violaine, je lui ai proposé qu'on bosse ensemble, qu'on essaye, qu'on fasse de la recherche. Et très très vite, on a eu des retours de gens quand ils nous voyaient nous entraîner. C'est mais vous devez faire un duo, faites un duo. Puis on dit oui, oui, bon, on va se laisser un peu de temps. Et puis finalement, très vite, on s'est dit bah, oui, on va faire un duo. Et donc, le duo on-off, c'est vraiment basé sur une complicité qui est très vite apparue entre Violaine et moi autour du mât et une confiance. On a fait une recherche, on a trouvé vraiment. C'est vraiment là que ça apparaît comme un outil, enfin, comme un jeu. C'est vraiment un jouet, le mât. On peut tellement explorer des choses. Et on a créé un univers à nous. Et puis très vite, on a eu des propositions pour jouer. On s'est dit, bon, allez, go, on y va.
Ok.
Il faut y aller, quoi.
Et quel genre d'univers, du coup ?
Mais là, c'est vraiment un univers de complicité, de jeu. Donc on est là, on se court après, on monte sur le mât, on se regarde, on est complice, on essaye des choses, on se porte. Il y a vraiment une relation de confiance et on est beaucoup dans le regard l'un de l'autre parce que quand on fait une discipline comme ça, il y a un risque. Il faut toujours être vraiment en raccord avec l'autre. Et je pense qu'on s'est beaucoup basé là-dessus, sur le regard, sur la complicité, l'écoute. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui ressort du spectacle, vraiment. Je pense d'être ensemble et de se faire confiance. Et qu'à partir de là, vraiment, tout est possible, je pense.
C'est combien de mètres un mât ?
Celui qu'on utilise fait 6 mètres.
Ok. Et ça peut aller jusqu'à combien ?
Ça peut jusqu'à 9 mètres. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite, à part la limite physique, qu'un mât, c'est un tube, et qu'au-delà d'une certaine hauteur, le tube va flancher de par ses agrès et par la tension qu'on va lui demander. Du coup, on a les limites physiques. Maintenant, il y a des mâts de différentes épaisseurs qui permettent quelquefois d'aller plus haut. Mais j'y pense quelquefois, parce que je pense que la hauteur, c'est grisant de pouvoir aller très haut, de faire des chutes très longues. Maintenant, il y a aussi un agrès de, par exemple, 10 mètres. Quand on fait des figures à 10 mètres de haut, voilà, c'est une autre approche encore, même si 6 mètres reste quand même aussi haute. Mais voilà, je pense qu'il y a la limite physique aussi, simplement.
Ouais. Et ben, toute cette hauteur, moi, ça me donne envie d'écouter une petite chanson sur le vent. Donc, c'est une chanson de La Tordue qui s'appelle « Le vent t'invite ».
Le vent t'invite. La vie t'invente, elle passe vite et tout te tente. Parfois des riens te désappointent, au creux des reins, tu sens la pointe de Damoclès qui s'enfonce, puis elle te laisse à d'autres ronces. D'une logique, il n'y a pas l'once. Reprends tes clics et fonce. Le vent t'invite à faire la fête. Hop, oh, hip, 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 l'affaire est faite. Cœur d'artichaut que l'on effeuille. Des baisers chauds ou des écueils. L'amour remonte comme la mer. Couleurs de menthe sont les amères. L'amour te remonte comme un réveil. Alors tu plonges comme un soleil.
tu fais le pitre, tu bois des pintes, y'a pas de titre à ta complainte. Le temps t'évite, la vie se teinte au teint des vitres, la mort se pointe. Rigor mortis, la vie se trisse, le mort aux dents, tu vas de l'avant. Que vaut ta vie, paradis, le cœur te fend comme un diamant. Ta vie, ce n'est que du vent, un sac de billes, tes yeux d'enfant, le regard des filles, les yeux brillants, l'amour te remonte les bretelles, alors tu replonges, la vie est belle, prends la tangente, si ça te chante, saisis ta chance par le callback. Reprends tes claques et danse.
Alors voilà, c'était le Lointain Vide de la Tordue que j'ai choisi un peu en découvrant ce que tu faisais et d'où tu venais, parce que tu as un parcours quand même assez atypique, je crois.
Oui, varié en tout cas, ouais.
Ok. Et tu peux nous en dire plus, parce que tu n'as jamais fait d'école, je crois.
Non, en fait, j'ai toujours été un très mauvais élève, en tout cas sur les bancs. Et puis, donc j'ai arrêté l'école assez tôt, enfin vers 18 ans. Et puis, je me suis lancé dans les études de régisseur, donc des cours du soir. Et très vite, en fait, j'ai été accueilli dans la compagnie des Baladins du Miroir, avec qui j'ai bossé pendant 8 ans. Et on peut dire que là, c'est là que j'ai appris vraiment la vie et le travail. Et voilà, ça, j'ai toujours une place dans mon cœur pour eux à ce niveau-là, parce qu'ils m'ont vraiment donné ma chance et j'ai beaucoup évolué dans ce milieu-là et j'ai fait plusieurs cordes à mon arc, c'est-à-dire que je suis arrivé comme régisseur, mais j'étais monteur chapiteau, chauffeur poids lourd, on vivait en roulotte, c'était la vie du voyage et ça a été une très belle expérience.
Okay.
Par après, j'ai arrêté et puis j'ai travaillé avec une compagnie de cirque, Cirque Ombelico, qui est une compagnie belge flamande et c'était une très belle aventure, c'était un spectacle qui se passait dans un camion. Et on vivait en caravane autour et c'était un couple d'accroportés. Je faisais la régie, technicien. Et je pense que c'est vraiment là que s'est affiné mon goût du cirque et l'envie d'essayer. Et je suis un peu un têtu dans la vie à ce niveau-là. C'est que quand j'ai une envie, généralement, je dis bon, bah, j'y vais parce que j'ai envie. Et donc j'ai arrêté cette aventure-là. Moi, j'ai dit bon, les gars, j'arrête. Je vous laisse. Je vais faire du cirque, moi. Et c'était un peu... Ils s'y attendaient pas, mais voilà, ils ont accueilli l'idée. Et du coup, j'ai arrêté, je me suis mis au machinois avec l'aide de Foucault Falguerol, qui est un machiniste belge d'origine française et qui m'a permis de me lancer parce que j'avais aucune base. Mmh. Et puis, il m'a dit, bah, écoute, ton parcours m'intéresse, on va essayer. Et puis, donc vraiment, j'en profite pour le remercier encore. Mais par après, voilà, j'ai continué le machinois, mais j'ai eu des pauses. J'ai continué à travailler en tant que scénographe, ferronnier, technicien, enfin... Un peu touche à tout dans la construction, dans le monde du spectacle, mais toujours en gardant le machinois. Mais j'ai eu des périodes de pause parce que je me blessais ou des périodes de découragement aussi parce que c'est une discipline qui est exigeante. Et puis je bossais beaucoup seul et du coup il y a des moments où voilà, j'ai arrêté parce que j'étais un peu paumé. Mais voilà, ça fait plus ou moins 4-5 ans maintenant. Et là, ça y est, ça commence à prendre.
Et pourquoi le machinois ?
Pourquoi le machinois ? Ben, en fait, c'est une discipline qui, d'ailleurs, d'abord que je trouvais très belle. Quand je le voyais en rue, je trouvais que c'était... c'est beau, c'est cette hauteur et cette simplicité aussi de juste ce tube accroché comme ça. Et puis aussi parce que je me suis dit que ça, je pouvais être capable. Et que vraiment, je me suis dit, bah, ça, je pense que je peux y arriver. Donc voilà, je me suis dit, bon, bah, on va essayer. Alors au début, c'était un peu ingrat, mais j'y suis arrivé.
Et tu as commencé tard, en fait, par rapport à d'autres artistes, on va dire, qui s'y prennent assez tôt.
Tout à fait. Je me suis dit, à un moment, je me suis posé la question aussi. C'est pour ça que le choix, à un moment, d'arrêter de bosser avec Cirque Ombelico et de m'y mettre, c'est que je me suis dit, bon, c'est maintenant ou jamais, parce que de fait, le cirque. Le corps a ses limites physiques et j'ai maintenant 30 ans et c'est maintenant que je commence un peu à vendre des spectacles. C'est un peu tard et je ne me mesure pas, j'essaie jamais dans ma vie de me mesurer aux autres et encore moins aux jeunes qui sortent des écoles parce que je pense que C'est un autre niveau, c'est des jeunes qui sont boostés à fond et qui font des choses incroyables. Moi, je me suis rendu compte à un moment que j'avais mes limites physiques aussi et que par contre, j'avais envie de défendre une approche du MAP, peut-être plus douce, et un point de vue artistique aussi, essayer des choses.
Pas dans la performance nécessairement.
C'est ça, pas forcément dans la performance, même si le duo on-off a quand même un côté performance. J'ai quand même, je ne suis pas aussi dynamique, je suis plutôt sur la lenteur et sur des déplacements plus doux sur le mât, même si j'aime certaines figures dynamiques, mais on explore d'autres choses.
Et du coup, tu parlais de défendre un point de vue ou quelque chose de beaucoup plus doux. Donc j'imagine que ça, c'est surtout dans tous les chassons gris.
C'est ça.
Ok. C'est quel type d'univers, du coup? Enfin, dans quoi tu nous emmènes, en fait?
Alors, l'univers, c'est vraiment cette ambiance, comme j'écris dans le texte de présentation, c'est cette ambiance douce de fin de journée. Le public est là et c'est l'envie de partager un moment de mouvement, de manipulation, parce que la structure que j'ai construite, c'était, pour faire une petite explication, c'est un montage de mâts, entre autres. Et ça correspond aussi à tout mon parcours jusqu'à maintenant. J'ai monté beaucoup de chapiteaux et j'ai toujours aimé monter des chapiteaux, manipuler des grands bazars comme ça. Et j'avais envie de reproduire ça pour le public en direct, de partager ce moment où on hisse un mât. Et c'est vraiment, je pense, une succession d'images que j'ai voulu offrir au public et de partager avec le public. C'est tout des images, il y a une évolution dans le spectacle et puis l'évolution sur le mât qui est très, très douce. Et je pense aussi qu'on m'avait déjà comparé parfois un peu à cette allure de chat sur le mât, d'y aller vraiment doucement. Et j'admire les chats dans leur déplacement, dans leur façon d'être, de s'étirer, de chasser, de... Ça m'a toujours un peu passionné, ces animaux. J'en ai pas, mais...
Et de quand dormir je vois... toute la journée.
Oui, c'est ça. Oui. On aimerait bien qu'elle fasse comme eux, mais voilà.
Ok.
Voilà.
Bon, on viendra voir ça, alors.
Ah, bah avec plaisir. Hein.
Tu peux nous rappeler quand
voilà, c'est ça. Donc, j'allais rappeler les horaires. Donc, c'est aujourd'hui à 17h40.
C'est ça.
À Côté Jardin. Et dimanche à 17h, Côté Jardin.
C'est ça.
Toujours.
Voilà.
Donc ça, c'est pour tous les chats.
Tous les chats sont gris. Voilà.
Merci. Donc ça, c'est pour voir plutôt quelque chose qui est proche de toi, ta vie, de ton parcours.
C'est ça, c'est vraiment la structure, je l'ai construite moi-même, c'est tous des rêves que j'avais de construire une structure, d'être autonome aussi, c'est une structure qui est tout à fait autonome et j'avais envie de pouvoir proposer ça au festival, d'avoir une structure autonome. Et c'est un univers visuel, esthétique et calme.
Ok.
Ouais.
Et du coup, on te retrouve dans un univers un peu plus énergique avec...
Avec Violaine, oui.
Avec Violaine.
Tout à fait.
Le samedi à 17h.
C'est ça. Et là, ça sera beaucoup plus... c'est assez court, ça dure 8 minutes. Mais c'est une musique beaucoup plus entraînante et c'est vraiment un tout autre style.
Mais c'est Côté Jardin aussi ?
En face de la grande scène.
Voilà. C'est bon à savoir. Hein. C'est pas trop, trop loin. Ça
non, c'est vraiment juste à côté.
Dis la vie de Saint-Abanque, ça fait rêver. Beaucoup de voyages, j'imagine. Est-ce que tu as des voyages de prévus?
Alors là, dans l'immédiat, non. En fait, j'ai beaucoup voyagé en roulotte, donc avec les baladins. Et puis, d'un point de vue personnel aussi, avec ma compagne Colline, on a beaucoup voyagé à travers le monde. Je pense que j'aime ça et que dès que je ne voyage plus, ça me manque beaucoup. Ouais. Et aussi, point de vue rencontre. Maintenant, le voyage ici, vraiment, dans les alentours, France, Belgique, ça reste du voyage pour moi. Devenir à Esperanza, ça reste du voyage. Pour moi, tout est voyage à partir du moment où c'est de la rencontre avec des gens. On bouge, on emmène tout son barda pour aller quelque part, s'installer. Et de finalement presque toujours se sentir chez soi là où on va. Donc de se sentir bien, de se sentir accueilli. Et, le festival ici est très chouette à ce niveau-là. Mais c'est sûr que la vie de Saltimbanque, ça fait partie de moi. J'ai habité un an en maison, mais ça change beaucoup. Et je reste fort accroché à la vie en caravane et en roulotte de par la liberté de vie que ça apporte et la beauté de vie aussi.
Du coup, toi, tu as terminé l'école et après, tu es parti en voyage directement.
Oui, j'ai travaillé, j'ai oublié de citer quand même, quand j'ai arrêté l'école, la première année que j'ai fait à la fac, j'ai travaillé avec Paolo Dos, un clown. C'était...
Une grande référence,
oui. Oui, c'est un fameux bonhomme qui lui aussi m'a jeté les premières bases. C'était vraiment une chouette expérience aussi. C'était du petit voyage, mais on s'est bien amusé. Mais c'est sûr que les baladins m'ont directement emmené sur les routes et c'est fou comme... J'ai découvert la Belgique avec les baladins. C'est-à-dire que je suis belge, depuis toujours j'habitais en Belgique. Mais c'est quand j'ai commencé à bosser avec les baladins que je me suis rendu compte de ce que c'était la Belgique. Et tous les beaux coins qu'il y a en Belgique. Et c'est ça que je dis que le voyage, ça peut être à côté de chez soi. C'est qu'on peut aller dans trois villages à côté et puis découvrir. Donc voilà, c'est du petit voyage, mais ça reste du grand voyage aussi. Et avec les baladins, ça a été à ce niveau-là des belles découvertes et des grandes routes vraiment chouettes.
Tu as une anecdote à nous raconter comme ça pour nous donner envie de découvrir la Belgique?
Ah, par rapport à la Belgique, une anecdote comme ça, là, j'ai réfléchi. Par rapport au baladin, On a vraiment été dans tellement de coins. Ce qui est rigolo, c'est une anecdote, c'est qu'on a joué sur des grandes places de ville. Par exemple, on va prendre l'exemple à la grande place de Mons, qui est une très belle place. Et une fois qu'on installe les caravanes et les roulottes, on est chez nous un peu. Et le matin, on sort, si on n'a pas de douche dans sa roulotte, et on traverse en peignoir la grande place de Mons jusqu'au sanitaire. Et ça, c'est un petit plaisir de se dire, je traverse la grande place en caleçon parce que je vais prendre ma douche. Et ça se passe dans beaucoup d'endroits comme ça, et c'est un petit côté vraiment rigolo.
Du coup, tout devient ton salon, quoi.
Oui, c'est ça. La vue change à la fenêtre, mais ça reste son jardin.
Le plus grand jardin du monde.
Voilà, exactement.
Ah, c'est pas mal. Je verrai plus la place de Mons de la même manière.
Ah, exactement. Vous le souhaitez.
Alors aujourd'hui, on va peut-être faire un rapide tour du côté de ce qui se passe en dehors de la radio et des studios. Et en fait, aujourd'hui, je suis passée un peu à l'improviste dans une réunion de bénévoles. Et donc, c'était Seb, que tu connais bien,
ouais.
Qui s'adressait aux bénévoles. Et puis, donc, il leur donnait à chacun une tâche. Et alors, tout à coup, il a eu un truc hyper important à leur raconter, quoi.
Dans le jardin des autochtones.
Alors j'ai un truc important à vous dire encore, un truc important, c'est que même s'il y a des gens qui sont responsables des campagnes, des gens qui sont responsables de tel groupe, c'est normal qu'on ait des séparations par rapport aux spécificités de ce qu'on fait. Mais je ne veux aucune séparation, comme on va appeler ça, humaine et sociale. C'est-à-dire qu'on a un grand groupe, je l'ai dit aussi aux responsables techniques, ils font un petit gâteau à eux tout seuls, mais parce qu'ils ont une spécificité technique. Comme vous avez une spécificité de communication, enfin de audiovisuel, mais socialement, on est un groupe. Hein. Et ça, c'est très important, c'est pas qu'il y ait des murs entre nous. D'accord ?
C'est beau.
C'est
beau.
C'est d'ailleurs ça le sens du mariage. Hein.
Oui, voilà. Donc c'était, cette espèce de coup d'amour. Tout à coup, il a fallu qu'il rappelle qu'on était tous ensemble et tout un groupe dans la famille, la grande famille d'Espéranza.
Ça lui ressemble bien.
Oui, tout à fait, on le reconnaît, oui.
Mais c'est un peu la plume burkina, hein, tous ensemble. On est ensemble.
tu l'as vécu, ça.
C'est clair.
Ça marche pas aussi au Bénin. Ouais. Et du coup, nous, il nous a présenté, c'est lui qui nous a présenté à toi, nous a parlé de toi en tout cas. Et donc, il te présente comme son frère.
Ouais.
Du coup, c'est frère de sang, frère de lien, frère, vous avez déjà bossé ensemble.
Voilà, c'est un peu tout ça.
D'accord. Ok, on n'en dira pas plus.
Ta curiosité ne sera pas assouvie maintenant.
D'accord. Dommage, on voulait ramener un peu de.
Il y a beaucoup de choses, mais c'est ça, c'est un peu tout ce que tu viens de dire.
D'accord, bon, très bien.
Sauf que vous n'êtes pas frère de sang.
Alors, nous avons des liens familiaux, mais c'est un peu des familles compliquées, du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais,
d'accord, quand même.
Voilà. Ouais.
Mais vous êtes apparenté. Ouais.
Non, mais ce qui m'intéressait, c'était plutôt de savoir si vous aviez bossé ensemble, s'il y avait eu des projets.
Non, on n'a pas bossé ensemble, mais on s'est retrouvés là, parce qu'on bosse chacun beaucoup de notre côté. Et puis là, en fait, c'est... C'est Jean-Yves Lafineur, directeur d'Espéranza, qui m'a repéré cet hiver sur un cabaret. Et puis, il m'a dit « Ah, voilà, j'ai vu un artiste, il faut que tu prennes contact avec. » Et Seb m'a téléphoné, genre, sans voir mon nom. Quoi. Et puis, il me téléphone, j'ai dit « Seb, c'est moi, c'est Olivier. »« Ah, mais c'est incroyable, c'est génial. » Et je dis « Bah oui. » Et du coup, en fait, depuis, on bosse sur différents... Il m'a programmé sur le Vert du Rock aussi, et il veut me programmer sur d'autres événements. Et je pense qu'on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. On est très différents en même temps, mais en même temps, on s'entend vraiment bien. Et je pense qu'il va y avoir d'autres projets avec lui, tout à fait. On se retrouve un peu, ouais.
On salue Jean-Yves qui a quand même un œil partout. Hein. C'est incroyable, ça. Oui, oui.
Ah oui, oui, j'en profite d'être à l'antenne pour le remercier parce que pour sa confiance et pour me donner les chances ici de jouer à Espéranza, festival que je fréquentais en tant que public. Et vraiment, merci Jean-Yves et merci Sébastien.
Bon, eh bien, il y a encore une demi-heure avant que le festival ouvre ses portes. Et donc, c'est une fanfare qui aura l'honneur de faire monter tout le public vers la première scène du premier concert de Fada donné par Fada Freddy, si je ne me trompe pas. Du coup, ce serait peut-être l'occasion d'écouter un morceau...
C'est la fanfare Zibereur, c'est ça. Et on va quand même...
Street Orchestra, quand même. Ils ont un nom complet, on les écourte. Mais voilà, j'aurai l'honneur d'être avec Émilie tout à l'heure et vous à mes côtés pour les recevoir sur le plateau à 18h30.
Le retour des autochtones.
C'est ça. Et donc, entre-temps, ils vont faire de la déambulation. Donc, soyez prêts, dès 15h, eux aussi seront prêts.
D'accord.
C'est bon.
Et voilà, comme le disait Ludo, ça va être l'heure de nous quitter. Mais avant ça, je vais quand même rappeler une dernière fois le spectacle, puisque nous avions Olivier Mélis cet après-midi au studio. Je vais rappeler que son spectacle se joue aujourd'hui à 17h40 côté jardin, que vous pouvez le retrouver aussi dimanche à 17h côté jardin, et aussi le samedi avec un duo qui s'appelle On Off avec Violaine, qui se joue en face de la grande scène, donc le samedi à 17h.
C'est bien ça, exact. Super. Et alors, j'ai le plaisir aussi de... Il y a cette première édition des mariages cette année à Esperanza, et j'aurai le plaisir de, avec l'homme saxophone, de faire la cérémonie.
Ah, ok, chouette.
Incroyable.
Voilà, ça va être un chouette moment, je pense.
Super, bon, bah on sera là.
Super.
Merci d'être venu, en tout cas, Olivier.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Et puis on se retrouve sûrement 17h40 alors.
Ok, et génial.
Bon vent.
Ouais,
et bon vent, oui.
Merci beaucoup.